VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mali, les attaques d'éléments armés contre la MINUSMA, la mission onusienne, et les forces gouvernementales continuent dans le collimateur des assaillants mercredi après-midi, le camp de la MINUSMA à Tombouctou. Bilan, 1 mort et 9 blessés, dont 4 grièvement. L'ONU confirme aujourd'hui que le casque bleu décédé vient du Libéria, mais sans préciser la nationalité des blessés. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est le super camp de la MINUSMA bâti sur une superficie de 52 hectares situé à 4 km du centre-ville de Tombouctou qui a fait l'objet d'une attaque terroriste. Selon les responsables à la communication de la MINUSMA, 6 obus ont atterri sur leur super camp. Le bilan est d'un mort, 9 blessés parmi les casques bleus, dont 4 grièvement qui ont été évacués à Bamako. Des dégâts matériels ont été également causés. Les casques bleus touchés dans cette attaque sont tous du contingent libérien. Aucun personnel civil n'a été affecté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, le départ du ministre de l'Énergie suscite des débats. L'ancien ministre aurait refusé de signer la cession de 2 blocs d'exploration pétrolière au groupe français Total. Tierno Alassane Sall avait déjà été limogé du gouvernement en 2014 suite à sa défaite aux élections locales dans la ville de Thiès où il est le coordonnateur de la majorité au pouvoir. Son nouveau limogeage soulève beaucoup de questions sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Le député Tchékou Marcy appelle à une plus grande transparence dans cette affaire.
Tout le monde sait que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qui a poussé le ministre à démissionner? Qu'est-ce qui a poussé le président à le limoger? Le plus important pour le citoyen sénégalais aujourd'hui, c'est de savoir et de connaître objectivement si ces questions-là sont liées au cas de Petrotim ou c'est lié à l'acquisition de Total des blocs au niveau du Rufisc. Donc c'est une question fondamentale parce que juste après son limogeage, Total a signé des contrats avec le gouvernement du Sénégal le même jour, presque à une heure de temps de différence. Donc nous souhaiterons en tant que Sénégalais être édifiés.
Le député sénégalais Cheikh Oumar Sy. En RDC, l'épiscopat catholique, dans un rapport confidentiel, exhorte les autorités congolaises à permettre à l'opposant Moïse Katumbi de retourner en homme libre dans son pays après un an d'exil. Monsieur Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un ressortissant grec. L'opposant Katangé attend aussi de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Les autorités congolaises ont promis de l'arrêter dès son retour au pays. RDC toujours, les violences dans le Kasaï ont déjà fait 1 million de déplacés internes dans le pays selon l'ONU. Dans le même temps, le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, affirme avoir comptabilisé en Angola voisin au moins 16 000 réfugiés congolais qui ont fui cette région du centre de la RDC. Les réfugiés arrivent en Angola, parfois avec de sérieuses blessures et disent avoir entre autres été victimes de violences sexuelles. Eddie Sango a joint dans la ville angolaise de Dundo, frontalière avec la RDC, le chef de l'équipe d'urgence du HCR, Assis Das.
Beaucoup entre eux traversent par les brousses en marchant pendant 3 à 6 jours pour arriver en Angola. Ils sont épuisés. Souvent, ils n'avaient rien à manger pendant le trajet. Et ça, avec ce qu'ils disent, c'est de la peur, l'intimidation et la situation difficile qu'ils ont observée chez eux et pendant le voyage. Ce qu'ils racontent quand ils arrivent à l'intérieur d'Angola.
Selon les communiqués que vous avez publiés sur les sites du HCR, ils disent avoir été victimes d'abus sexuels aussi et d'autres violences.
Ici, on aussi essaye de trouver cette personne qui sont venues avec des blessures et suivies avec d'autres formes de violence. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment une chiffre exacte. de vous dire pour pouvoir donner la taille de violence qui sont passées là-bas.
Il y a un cargo qui a amené de l'assistance, des bâches, en fait, beaucoup d'autres choses. Et vous espérez que la rotation va continuer. Est-ce que vous pensez qu'il y aura dans la suite beaucoup plus de réfugiés qui viennent du Kasaï?
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À peu près 11 000 personnes sont venues jusqu'à 18-19 avril. Ensuite, il y avait une pause. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivés. Et finalement, à partir d'il y a 3 jours, on reçoit aussi encore de nouveaux arrivés. Comme ça, les chiffres a augmenté de 11 500 à 16 000 quelque chose jusqu'à hier. Comme la situation dans le Kasaï n'est pas vraiment stabilisée, on prépare pour accueillir plus de gens.
Les HR a demandé aux autorités angolaises de déplacer les réfugiés qui sont à Dundo, une ville frontalière avec la RDC, à un autre endroit un peu plus éloigné. Quelle en est la raison?
Selon les standards internationaux, en général, on recommande de ne pas créer le camp de réfugiés moins de 50 km de la frontière pour éviter les attaques interfrontalières et autres genres d'insécurité. Et à cause de ça, on a forcé 2 réseaux principaux. Nous avons discuté avec l'autorité angolaise pour trouver un meilleur endroit pour déplacer cette population, pour pouvoir offrir une meilleure condition d'habitation, accès aux services, etc.
Assis Das, chef de l'équipe d'urgence du ACR à Dundo, ville frontalière de l'Angola qui jouxte la RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mozambique, le chef de l'opposition mozambicaine Afonso de la Cama, d'accord ce jeudi pour une prolongation illimitée de la trêve militaire établie en décembre dernier entre la faction armée de son parti, la RENAMO, et les troupes gouvernementales dans le centre du pays. J'annonce aujourd'hui une trêve sans nouvelle limite, a déclaré Afonso de la Cama lors d'une conférence de presse téléphonique à Maputo. Cela ne signifie pas la fin de la guerre, mais le début de la fin de la guerre, a-t-il précisé. Corne de l'Afrique, le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a écourté ce jeudi un déplacement en Éthiopie après la mort de son ministre des Travaux publics, tué par erreur par un garde de sécurité. Une affaire sur laquelle le chef de l'État a ordonné une enquête approfondie. Le ministre somalien des Travaux publics, Abdoulaye Siradji, a été abattu mercredi à Mogadiscio dans un incident impliquant un garde du corps d'un autre officiel somalien qui aurait tiré par erreur sur le véhicule du ministre. Et puis en Algérie, quelques 23 millions d'Algériens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale, mais l'abstention s'annonce élevée après une campagne sans élan ni surprise. 12 000 candidats sont en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire, la chambre basse du Parlement. 45 000 policiers sont déployés autour des centres de vote pour assurer la sécurité du scrutin. Campagne présidentielle en France maintenant, choc frontal et virulent hier soir lors du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes de la présidentielle française. À 4 jours du second tour décisif dimanche, les échanges entre les deux candidats au programme diamétralement opposé ont souvent tourné à la cacophonie et au pugilat verbal au terme d'une campagne très tendue. Le compte-rendu de Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po.
C'est une défaite pour le débat républicain parce que c'était très abaissé. Je pense que Marine Le Pen a tenté son va-tout et du coup elle a vraiment baissé le niveau du débat en étant extrêmement agressive et en étant dans le registre de l'insulte. Et Macron a été surpris, il a essayé de contre-attaquer, mais au final, ce que je retiens, c'est surtout un mauvais débat. Je pense pas que ça aura un impact considérable, comme souvent. Là, on a quand même vraiment vu les limites de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a pas de stature présidentielle. Contrairement à Donald Trump, même de façon délirante, elle avait pas de projet pour éradiquer le terrorisme, pour sortir de l'Europe, etc. Macron est apparu comme beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Vous savez, aujourd'hui, la campagne, elle se fait surtout après le débat, c'est-à-dire que maintenant, les équipes de militants vont relayer les bons passages, les bonnes séquences, les petites phrases sur les réseaux sociaux. Et très honnêtement, c'est ça qui va peser jusqu'à samedi. Mais il n'y a pas eu le basculement majeur. Donc comme c'est Emmanuel Macron qui était très en avance dans les sondages, c'est plutôt lui qui ressort conforté du débat.
Vincent Hédin, professeur de rhétorique politique à Sciences Po à Paris. Et pour terminer, les États-Unis mobilisent leurs alliés d'Asie du Sud-Est pour faire face à ce que les hauts responsables américains ont appelé la priorité numéro un des États-Unis en matière de sécurité nationale, les menaces posées par le nucléaire et les missiles nord-coréens. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, tiennent une réunion aujourd'hui à Washington. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.